Bonjour le Book Club et bonjour Séverine Chevalier. J'ai lu votre roman Théorie de la disparition et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de se retrouver plongée dans l'intimité de cette femme Mylène avec la lecture de ce qui s'apparente à une sorte de journal intime.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Que se passe-t-il lorsque la femme de l'écrivain se met à écrire ? Mylène, l'héroïne du roman qui nous occupe aujourd'hui, est l'intendante de son mari, auteur de polars à succès. Son existence consiste, pour partie, à repasser ses chemises, son sourire et son âme. Mais un jour, Mylène décide d'occuper le sous-sol de la maison où le couple séjourne pour se mettre à écrire. Elle se laisse disparaître pour faire apparaître d'autres effacements, des absences, des retraits, des silences, celui d'une grand-mère ou d'un père, celui de toutes ces femmes, femme de, fille et fils de, oubliés des petites ou de la grande histoire. C'est une véritable théorie de la disparition que nous tiendrons pour finir entre nos mains. Séverine Chevalier, son autrice, est notre invitée. À 15h50, comme chaque mardi, Nicole Vulser viendra nous donner quelques nouvelles du livre sous son versant économique. Et aujourd'hui, elle nous parle de la bonne santé du polar. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouerons à trouver de la musique dans un livre pour nous quitter en chanson. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club et bienvenue et bonjour à vous, Séverine Chevalier.
Bonjour Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre « Théorie de la disparition ». C'est son titre, il est très beau, il a paru au début de l'année à la Manufacture de Livres. C'est votre 7e livre, le 4e je crois qui paraît chez cet éditeur. On va en parler, y plonger tout à l'heure en détail. Mais dans cette émission, on commence toujours par essayer de faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs, des lectrices, par essayer comme ça de raconter un peu quel a été leur chemin dans la découverte de la lecture. Est-ce que vous vous souvenez, vous, quand, comment, dans quel paysage vous avez appris à lire, Séverine Chevalier ?
Alors, eh bien, je crois que j'ai une sorte de scène préhistorique, enfin pré-lecture, qui est très forte chez moi, qui est relative à ma grand-mère maternelle qui s'appelait Suzanne, qui était femme de boulanger-pâtissier. Donc mon papy Marius et mamie Suzanne donc officiait dans son magasin. Quand j'étais petite, je la voyais faire avec ses clients, vendre ses gâteaux, son pain, ses pains au chocolat. Donc il y avait cette mamie dans la boulangerie. Et puis le soir, parce qu'elle me gardait beaucoup quand j'étais petite, toute petite, je la voyais dans son lit, adossée à des coussins, tenir une espèce de petit objet rectangulaire dont elle tournait les pages, et je la voyais littéralement absorbée par ce petit objet. Et moi, j'étais à côté, je ne savais pas lire, j'étais dans le petit d'à côté et je la voyais disparaître en fait dans ce petit objet miraculeux. Et je me rappelle très bien du contraste en fait entre cette mamie sociale, commerciale, et puis en fait ce qu'elle était. Enfin, elle n'était plus là pour personne en fait, elle n'était plus là pour le monde, ni même pour moi, et c'était absolument incroyable. Donc je crois qu'il y avait déjà cette idée de la lecture comme sécession, quoi, comme sauvagerie presque. Et puis moi, ce que je faisais dans le petit lit, c'est que je limitais, c'est-à-dire que je tenais moi aussi un petit livre. Donc je voyais des signes sur la page
sans savoir lire, mais pour faire le même geste.
Pour faire le même geste. Mais donc maintenant, je me dis, je devais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup m'ennuyer. Donc je pense que ça a peut-être développé aussi quelque chose qui s'est manifesté bien plus tard, qui est cette espèce de muscle fictionnel à l'intérieur de soi, quoi. Enfin cette capacité à se raconter des histoires, quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier grand souvenir, donc vraiment préhistorique puisque pré-lecture. Et puis mon deuxième vraiment souvenir, c'est un souvenir olfactif et puis visuel. C'est Mademoiselle Billardello, mon institut de CP. On la suivait dans les couloirs pour monter dans notre classe au CP. Elle avait un parfum très capiteux, je me rappelle de cette odeur. Et puis quand on arrivait, elle ouvrait le tableau. Elle avait dessiné des fresques à la craie, ça c'était magique. Et puis c'est elle qui m'a appris à lire, tout simplement, quoi. B plus A égale bas, et si on ajoute une syllabe à une autre, ça fait un mot. Et un mot renvoie à une chose. Et ça a été vraiment le début de quelque chose d'absolument merveilleux pour moi, qui est, comme vous le disiez, quoi, mon propre chemin de lecture, sachant que tout chemin est singulier et particulier, quoi.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des images très fortes, du coup, et très précises, d'une certaine manière, qui vous restent encore aujourd'hui. Alors, partant de ces deux images primitives ou préhistoriques, est-ce que vous sauriez dire, est-ce qu'il y en a d'autres qui accompagnent les moments où après, une fois l'apprentissage du fait de déchiffrer est acquis, vous avez vraiment, pour le coup, plongé dans des fictions ou des pas-fictions, dans des livres, en somme. Est-ce que vous vous souvenez quels ont été les grandes rencontres, quoi, de lecture?
Ce dont je me souviens, c'est un peu des quelques livres. Il n'y avait pas énormément de livres dans l'appartement familial, donc avec mes parents, mais il y en avait quand même quelques-uns. Donc ça, je me souviens, il y avait des Santonio, des Agatha Christie, et il y avait aussi planqué un peu dans un coin Vénus Erotica d'Anaïs Nin. Donc ça, c'est tous des bouquins que j'ai lus, évidemment.
Ce qu'il y avait, vous preniez, quoi.
Oui, voilà. Et après, j'ai eu la chance aussi d'avoir à la fois une mère qui m'a quand même lu des histoires, notamment des contes. Je me rappelle avoir beaucoup aimé les contes, notamment les plus affreux, quoi, ceux où les parents vont perdre les enfants dans la forêt, où les enfants risquent d'être mangés, dévorés par les ogres. Enfin, bon, où les filles doivent échapper à leur père qui veulent les épouser. Enfin, je sentais déjà qu'il y avait une sorte de justesse dans ces justesses cachées derrière l'officiel de la famille formidable, quoi. Il me semble, quelque chose me touchait. Et puis après, j'ai eu la chance d'être inscrite à la bibliothèque municipale où je pouvais aller à pied. Et là, je prenais vraiment tout ce qui passait. Donc, je me rappelle de Jules Verne, par exemple. Jack London, bon, j'ai lu tous les Agatha Christie. J'entendais Marianne Diaye dans votre émission l'autre jour. Bon, on est un peu de la même génération. Donc, moi aussi, j'ai lu Le Club des Cinq, Les Fantômettes. Enfin, ça, j'adorais. Et puis, il y avait vraiment cette idée d'une grande liberté. Je me souviens pas qu'on me donnait de conseils, voyez. J'en demandais pas non plus. C'était vraiment la
liberté. Vous étiez libre,
ouais. Oui, la bibliothèque, c'était vraiment.
Vous pouviez aller piocher. Mais ça, c'est intéressant. C'est quelque chose, en effet, qui revient pas mal. Plusieurs de nos invités nous racontent comment, eux, ils avaient pas de recommandations, ils pouvaient à la bibliothèque ou ailleurs piocher absolument ce qu'ils voulaient, et que cette liberté-là, cette absence de hiérarchie entre les livres, d'une certaine manière, a été décisive.
Oui, décisive, parce qu'en plus, je pense qu'on se construit aussi avec des mauvais livres. Enfin, je veux dire, ouais. J'ai une sorte de terme pour. J'appelle ça mon gros livre infini, enfin, c'est-à-dire toutes les traces qui restent de mes lectures. Et dedans, il y a des trucs tout pourris. Par exemple, il y a le tome 6 de La Petite Maison dans la Prairie, qui s'appelle Un hiver sans fin. Je me rappelle de ça, parce que ça se passe entièrement sous la neige. On a peur de se perdre dès qu'on sort chercher du bois. Bon, c'est un mauvais livre, mais pour autant, il m'a marqué. Et il est dans ce gros livre infini, quoi. Donc, voilà, c'est pour moi, je crois qu'en fait, ce que j'ai cherché très tôt, quand même, dans la lecture, dans les livres, quels que soient les livres, j'ai toujours un espoir fou quand j'ouvre un livre, quel qu'il soit, c'est de trouver, je sentais petite, disons, une forme de dissonance, hein, quelque chose clochait entre ce que je percevais, moi, du monde et les discours qu'il y avait sur le monde, en fait, les discours familiaux, le discours de l'école, et puis après, bon, les discours publicitaires, politiques, tout ce qu'on veut, enfin, quelque chose qui masquait le réel. Et je crois que je cherchais, par la littérature ou toutes sortes de textes, à approcher le réel, que quelque chose se réaccorde, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. J'ai l'impression que je lis encore pour ça, quoi.
C'est l'endroit où se dit la vérité du réel.
Eh ben, c'est un peu ça
réel.
Pour ouais. Moi, en tout cas. Oui.
Vous avez parlé, pour commencer, de l'image d'une grand-mère. Est-ce que ça veut dire qu'ils lisaient, je veux dire, est-ce que ça signifie que vos parents, eux, lisaient moins, lisaient peu? Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de livres.
Alors,
chez vous?
Ouais, ma mamie, elle lisait des romans policiers, des romans à l'eau de rose. D'ailleurs, dans mon esprit, j'ai un peu associé les deux. Enfin, bon, et puis mes parents, ils lisaient. Ma mère peut-être lisait. Je me rappelle pas l'avoir vu lire, mais maintenant c'est une lectrice. Donc, et mon père, je pense qu'il lisait assez peu, peut-être des Santonio, quoi. Mais c'est plutôt ma mamie Suzanne que j'ai vu lire. En fait, c'est le fait de la voir lire et le fait qu'elle cherche pas à me transmettre quoi que ce soit, mais qu'elle-même soit absorbée par ça, qui m'a sans doute joué dans mon envie de lire.
Un processus d'imitation aussi.
C'est ça. Ouais. Oui, d'imitation et pas d'injonction. C'est-à-dire, c'est pour ça que maintenant j'ai l'impression que tout ce qui est de l'ordre de l'injonction à la lecture, il faut faire lire les gens, tout ça. Enfin, pour moi, c'est contre-productif, presque d'une certaine manière. Mais en même temps, je vois bien la chance que j'ai eue de vivre dans un certain environnement. Mes parents étaient commerciaux, donc ils avaient quand même les moyens, ils pouvaient m'acheter des livres. Je vivais dans la ville, donc j'avais accès à la bibliothèque. J'étais une petite fille très seule, donc ça a joué aussi. Enfin bon, il y a quand même plein d'éléments qui m'ont conduit à ça, quoi.
Et ça a toujours été, dans vos goûts de lecture, la fiction avant tout, parce que tous les exemples que vous avez cités là, c'est des exemples de textes de fiction. Est-ce que c'est toujours encore jusqu'à aujourd'hui de ce côté-là que vous lisez
Ah non, pas du tout. Enfin, pour moi, il y a du vrai. Enfin, il y a de la littérature partout, possiblement. C'est-à-dire que Adolescente, par exemple, j'ai commencé à beaucoup lire de textes, de témoignages d'après la Shoah, par exemple. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aime autant la fiction que la non-fiction, que l'autobiographie, voire que l'autofiction. Il me semble qu'il y a des textes qui ne m'intéressent pas ou des mauvais textes partout. Enfin, j'aime aussi la poésie, le théâtre. Enfin, j'ai pas du tout d'a priori, en fait. Pour moi, tout est intéressant. Enfin, après, c'est plus des critères, je dirais. En tant que lectrice, qui me sort des textes, ça va être plutôt la boursouflure, les textes qui veulent en faire trop. Ouais, ce genre de le lyrisme échevelé, la métaphore à tout craint, tout ça. Bon, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et donc, ça peut exister partout, quoi.
Mais c'est plutôt une histoire de langue.
Oui, c'est une histoire de langue.
Une histoire de genre.
Tout à fait.
De territoire, de catégorie de livres, en tout cas. Vous avez écrit des livres qui ont la forme de polar. Vous publiez par ailleurs chez un éditeur la manufacture de livres qui est connue pour faire paraître des romans noirs. Ce livre qui nous occupe aujourd'hui et auquel on va arriver, la question se pose de savoir si c'est un polar, sans doute que pas du tout. Mais malgré tout, Séverine Chevalier, est-ce que cette littérature-là, ce grand territoire de fiction-là, il a une place privilégiée dans votre vie de lectrice ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup lu des romans d'enquête, donc Agatha Christie, puis ses suites. Et je suis arrivée au roman noir plus tard. En fait, ce qui m'intéresse dans le polar, si on entend le polar comme une catégorie générique qui regroupe plusieurs types de récits, c'est vrai que en tant que lectrice et puis après en tant que personne qui écrit, ce qui m'intéresse le plus, c'est le roman noir, c'est-à-dire un roman qui justement vise quand même à s'intéresser aux violences cachées, sociales ou autres, pas seulement, où il n'y a pas forcément de détective et d'enquête, et qui peuvent aussi recouper des éléments de critique sociale. Donc oui, j'en ai lu, j'en lis encore. Et dedans, il y a tout un tas de textes que j'aime bien, mais j'ai une affection particulière, par exemple, pour un écrivain américain qui s'appelle Harry Cruz, qui a écrit des textes très beaux. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu les personnages à la marge, on va dire, les lieux relégués. Enfin bon, j'ai à la fois en tant que personne et en tant que lectrice et personne qui écrit, ça m'intéresse. Donc c'est par exemple, il a écrit un bouquin absolument génial qui s'appelle Car, qui est sur un type qui se met à manger une voiture. Je le conseille.
Ah, c'est génial, comme tout est dit. Enfin, ça donne. C'est un livre que je connais pas, mais ça donne immédiatement envie d'aller le lire. La narratrice de votre roman de théorie de la disparition, Mylène, elle est donc mariée à un écrivain qui est lui-même auteur de polar, et elle raconte à un moment comment elle lit plus ou moins en se cachant de lui Simenon, qui est aussi un auteur qui est cité en exergue de ce livre. Lui a une sorte de mépris pour cette littérature-là. Simenon, est-ce que c'est un auteur qui vous accompagne, hein, ou pas spécialement?
Oui, sinon, je l'ai pas mal lu, je le lis moins aujourd'hui. Ce que j'aime chez lui, c'est une espèce de fausse simplicité de la langue. En fait, c'est pas si simple de faire simple. Et c'est vrai que je suis sensible, moi, dans les écritures, toutes sortes d'écritures, à une économie de mots qui peuvent peut-être, enfin, au silence qui les entoure et à une forme de puissance d'évocation avec peu de choses. Je crois que sinon, c'est vraiment ça. Il arrive à saisir quelque chose. Enfin, je sais plus, André Gide, il a une correspondance importante avec André Gide. Je sais plus comment le formule André Gide, mais il disait quelque chose d'assez juste sur ça, justement, sur à quel point il arrive à faire exister les êtres humains avec très peu d'éléments, quoi. Ça me touche beaucoup, quoi.
On va aller vers votre roman à vous, Séverine Chevalier, Théorie de la disparition. Et pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute cette chanson de Clara Isé. Elle s'appelle « Le monde s'est dédoublé ».
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu. l'oiseau qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, est éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le temps on se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
On pourrait commencer par la polyphonie de ce mot « disparaître » dont vous inscrivez dans les dernières pages de votre roman Séverine Chevalier les échos qu'en recense le dictionnaire analogique Larousse. Disparaître de la vue, échapper au regard, être invisible, se soustraire, s'éclipser. Disparaître de la présence, s'en aller, s'échapper, s'enfuir, s'esquiver. Disparaître de l'existence, mourir, s'éteindre, s'anéantir, tomber. C'est étonnant tout ce qui peut s'écrire partant de la polyphonie d'un mot. Dans ce livre, plusieurs disparitions s'enchevêtrent. Il y a d'abord la disparition de Mylène, la narratrice, femme qui se considère comme l'intendante de son mari, qui toujours à ses côtés s'efface et décide un soir de s'enfermer en sous-sol pour se mettre à écrire. Il y a celle sur laquelle travaille le mari, écrivain, un fait divers, la disparition d'un homme dans une centrale nucléaire. Il y a la disparition de la grand-mère, morte sous les coups d'un mari, la tentative d'anéantissement du père, la perte d'une amie d'enfance dont le souvenir ressurgit. Mais la disparition ici est à la fois menace et libération, anéantissement et consignation, évaporation et condensation. Ne perdons pas en permanence presque tout ce qui se produit extérieurement et intérieurement, le flux se superposant au flux, le chaos remplaçant le chaos, écrit Mylène. Or, écrivant, elle sauve quelque chose de cette perte, s'emparant des mots, elle consigne ce qui se délite, ce qui se tait. Théorie de la disparition, c'est le titre de ce récit, Séverine Chevalier. Il a paru à la Manufacture de Livres et on vous retrouve pour en parler. Et pour en parler, je voudrais qu'on commence par l'entendre, Mylène. On écoute le début de ce texte.
Si je suis assise en catimini dans un sous-sol, devant mon ordinateur portable, si j'ai ouvert un fichier intitulé, après avoir hésité, brouillon sans B majuscule, si j'ai regardé un interminable moment le rectangle blanc vertical, avec la barre clignotant comme une luciole, en haut à gauche, si j'ai passé plusieurs fois mon doigt sur la touche manquante, le E, si je vois en levant la tête un deuxième quadrilatère en longueur, soit une fenêtre à la vitre scellée qui découpe l'extérieur de la façon suivante, ciel, mer, champ, maison, étendage, si je sais, laissant mes yeux intérieurs dotés d'une certaine, bien que récente, connaissance des lieux se prolonger, pour le pavillon du dessous, le premier d'un lotissement inachevé dans lequel il semble n'y avoir personne, sauf une jeune femme qui étend parfois son linge. Si je sais pour les prés rampantes, puis les falaises, puis les rochers, tout en bas, sur l'absence intermittente de plage, si je connais plus ou moins la modalité automnale, jaune et grise et normalement normande, de la côte, sauf étrangeté radicale et quasi secrète puisqu'on ne peut la voir que du large, la centrale. Si je sais pour les lignes à haute tension et les routes courbes ou droites sur lesquelles nous avons roulé pour venir du festival dans le sud, sans nous arrêter à l'est et au milieu où nous vivons, Mallory, mon mari, et moi, Mylène, en face du cimetière. Si j'appelle ce fichier brouillon dans l'idée nouvelle, sûrement absurde, de tenter d'écrire tout ce qui me vient, c'est peut-être pour tenter de répondre à cette question, pour moi tout à fait confuse. Quand et comment sait-on qu'il se passe quelque chose ? S'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, que se passe-t-il ?
C'est ainsi qu'on est accueilli dans le livre Séverine Chevalier. On est d'emblée au cœur des choses, puisqu'on est avec Mylène dans ce sous-sol, dont on ne sait pas très bien où il se situe pour commencer, avec elle dans son ordinateur, dans ce texte qui s'écrit et qui est d'abord un brouillon avec un B minuscule, sans majuscule, et qui contient déjà beaucoup des fils qui vont être tirés dans la suite du roman. Si j'ai voulu qu'on commence par là, Séverine Chevalier, au-delà du fait que c'est ainsi que commence le livre, c'est pour parler de ce présent d'écriture-là. On est tout de suite dans le présent de cette femme qui écrit. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez voulu d'emblée, qu'on soit au plus près de son temps d'écriture ?
Oui. Tout à fait, mais je pense que je ne l'ai pas vraiment décidé. En fait, le texte est arrivé de façon très incidente alors que je peinais à écrire un autre texte. Enfin, je n'arrivais pas du tout à écrire un autre texte. Et puis, je me rappelle très bien quand c'était, en novembre 2022, je rentrais d'un festival de polar et de roman noir et m'est venue cette question sur, disons, que peut penser la femme de l'écrivain. Elle s'est formulée un petit peu comme ça dans ma tête. Et ça a convoqué chez moi, des obsessions tout à fait personnelles de longue date autour de la question de la disparition. Et disons que Mylène est apparue, elle n'est pas vraiment apparue, mais disons que j'ai commencé à entendre sa voix très vite. Et je me suis dit, il faut que je l'écrive, enfin, que je sois son... Et donc, tous les moments où je me mettais à écrire Mylène, il fallait être dans ce présent-là de l'écriture.
Vous avez tout de suite écrit en première personne, du coup.
Tout de suite.
J'essaie de se mettre dans sa peau.
Oui, complètement. Le point de départ, c'était... elle ne disparaît pas pour se mettre à écrire. Il se trouve qu'elle disparaît sans l'avoir prémédité, sans l'avoir décidé. Elle se retrouve dans son sous-sol et... Elle se met à écrire pour essayer d'élucider pour quelle raison elle a disparu. Pour tirer les fils, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est très juste, quoi. Et ça va fonctionner vraiment par cercle concentrique. Elle commence par les micro-événements qui se sont passés juste avant. Et puis par l'écriture elle-même, parce que ça me semble très juste quand on essaie d'écrire. C'est-à-dire quand bien même on a des intentions, quand bien même on peut avoir des choses très précises qu'on se dit, qu'on va raconter... Le fait même d'écrire fait advenir des choses. Et dans le cas de Mylène, je crois qu'elle s'approche peu à peu d'un point aveugle, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire en commençant par elle-même, par son enfance, en remontant peu à peu à ses parents, notamment son père, sa grand-mère et son grand-père. Elle s'approche de ce point de violence extrême qui a été recouvert par le silence et le secret. Et elle s'en approche, elle ne le résout pas, mais elle s'en approche, quoi. Et ça, c'est vraiment le fait même d'écrire. Tout de suite, elle sent qu'il y a un enjeu important dans chercher une forme de justesse par rapport à ce qu'elle a ressenti, même si c'est des choses très microscopiques, quoi. Mais elle sent que c'est quand même quelque chose de sérieux. Sérieux et pas sérieux, parce qu'elle va utiliser aussi une forme d'ironie douce, je trouve, dans le texte.
Absolument,
oui. Qui est aussi une forme de... peut-être de contre-pouvoir, on va dire.
Ouais, une forme d'ironie douce, c'est vrai, mais qui n'est jamais, ni méprisante, ni agressive. Il y a un sourire dans le texte qu'on entend là déjà dans ce texte. Moi, j'adore, par exemple, c'est la manière dont elle parle de ce brouillon sans B majuscule qui suffit à camper d'une certaine, manière le personnage. Il le fait, cette expression, elle fait apparaître quelqu'un pour nous, je trouve, une forme de modestie, de discrétion, de manière de s'effacer un peu comme ça. Mais ironie douce parce que, oui, elle est jamais, jamais méprisante avec qui que ce soit, y compris avec son mari. Vous le dites, hein, c'est le personnage de la femme de l'écrivain. On pourrait tout à fait imaginer comment il aurait été facile de caricaturer un peu cet écrivain qui est celui qui a pris le devant de la scène dans sa vie. Mais quand elle parle de lui, par exemple, Mylène, oui, il y a toujours quand même, en même temps qu'une forme d'humour, une forme de douceur, une forme d'amour peut-être. Et on comprend par exemple très bien, elle le décrit très bien, comment lui, s'il a cette tendance un peu à occuper la place, c'est peut-être le revers de ce que dans son enfance, il a eu tendance à être un peu relégué au fond de la pièce. Est-ce que cette douceur-là, je ne sais pas si c'est, le mot est juste, mais c'est quelque chose à quoi vous avez travaillé?
Ben alors pas exactement une forme de douceur, mais plutôt à, il me semble que ce qui va peut-être dans ce sens-là, c'est le fait qu'elle ne s'épargne pas non plus elle-même, c'est-à-dire elle en essayant de déplier un petit peu toute sa vie et notamment sa vie avec Mallory, je crois que ce qu'elle essaye de comprendre, ce sont les effets, enfin comment dire, les effets de la violence originelle, on va dire, et de cette deuxième violence qui est le fait qu'elle ne soit pas dite. Mm. Et des effets qui me semblent peu souvent montrés. C'est-à-dire souvent on parle de cycle de répétition de la violence, quoi. Les gens qui ont subi de la violence la reproduisent. Mais on parle peu de ces effets en termes d'impossibilité à être, de soumission, de servilité, de cette difficulté à se constituer comme sujet, qui a été vraiment le problème vraiment du père de Mylène. Mm. Qui lui n'a pas pu peut-être vivre une vie pleine. Ça me fait penser, une fois j'avais entendu Hélène Cixous, ce que j'ai pas lu par ailleurs, donc bon, c'est un peu outrecuit dans la cité, mais elle avait eu deux expressions que je trouve vraiment très fortes et qui me paraissent applicables à la fois au père de Mylène et à Mylène elle-même. Elle parlait de sans-vivance et de sous-vivance. Et je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire le père de Mylène qui lui a vécu une violence directe de quelqu'un qui était censé le protéger, l'aimer, il n'a pas pu vivre, il était dans une forme de sans-vivance, et pour Mylène c'est plutôt une sous-vivance, c'est-à-dire elle a hérité d'une difficulté à pouvoir être, quoi.
Le père de Mylène, hein, que je le précise pour nos auditeurs, nos auditrices qui n'ont pas encore lu votre livre, hein, le père de Mylène, dont Mylène nous raconte assez tôt dans le roman, comment en fait son père à lui a assassiné sa mère, hein, donc qui n'a plus de mère, et non content d'avoir assassiné sa mère, donc cet événement qu'on n'appelait pas à l'époque un féminicide, mais il s'agit de cela, non content d'avoir assassiné sa mère, a aussi tenté de l'assassiner lui, petit garçon, et puis rien. Et puis, il n'a pas été puni, il n'a pas été emprisonné. Et Mylène, elle développe la manière dont cet événement absolument tragique et d'une violence inouïe a marqué la vie du père qui a vécu sous une forme d'effacement, on pourrait dire. Si bien que le livre, il fonctionne comme ça, sous forme d'un jeu d'écho entre différentes disparitions. Disparition au sens de mort, mais disparition au sens d'effacement, disparition dans toute cette polyphonie dont je parlais pour commencer. Ces différentes manières dont les disparitions s'inscrivent dans le roman, est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu d'emblée, donc vous avez construit comme une sorte de plan comme ça, ou bien est-ce que c'est vraiment venu au fil de l'écriture, Séverine Chevalier?
Non, c'est venu au fil de l'écriture, et d'ailleurs c'est vrai que maintenant je me dis vraiment le livre est saturé de disparitions, il y a presque trop, c'est presque suspect on va dire, mais effectivement je l'ai pas programmé, et en fait je crois que ça vient masquer la disparition qui moi peut-être m'intéresse le plus, qui est la disparition des récits. Notamment la disparition des récits sur ce qui a été, sur le vrai, quoi, ce qui est, ce qui a été, quoi, comment on peut, soit en ne parlant pas des choses, soit en les falsifiant, soit en parlant mal, on peut les masquer, à quel point le fait de les masquer est problématique pour la vie des gens, et ça pose une question, enfin quelque chose moi qui m'intéresse énormément, à la fois en tant que lectrice et en tant que personne qui écrit, c'est la question de l'irréparable, c'est-à-dire, je crois qu'il y a de l'irréparable, Et je crois que peut-être la littérature ou l'art en général elle a plein de rôles possibles, plein de fonctions évidemment, mais elle peut aussi avoir cette fonction-là, c'est-à-dire de s'en approcher, de nous la donner à voir, à percevoir, de faire en sorte qu'on ne soit pas... de régénérer notre capacité sensible, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je crois que, bon, évidemment, je n'y arrive pas dans ce texte, mais j'essaye de m'en approcher. Et Mylène, et peut-être, essaye de s'en approcher. Mais c'est vain, effectivement, parce que c'est très compliqué de s'approcher de quelque chose qui est, qu'on pourrait dire, indicible. Mais il faut quand même essayer de le dire.
C'est le mouvement c'est du livre que d'essayer de le dire. Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs et de lectrices qui lisent les textes des auteurs que nous invitons ici. Je voudrais qu'on écoute Léa, qui a lu ce texte, Théorie de la disparition, et qui vous adresse une question.
Bonjour le Book Club et bonjour Sérine Chevalier. J'ai lu votre roman Théorie de la disparition. Ce qui est très intéressant, je trouve, au-delà de l'histoire poignante de Mylène, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la disparition, comme le fait de disparaître pour peut-être renaître pour soi-même, comme une sorte de métamorphose, mais aussi avec toutes les différentes nuances, ou plutôt théories, de la disparition que vous évoquez à la fin de votre roman. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé intéressant sur tous ces aspects. Et le fait d'être au cœur des écrits de Mylène, ça rend le récit beaucoup plus intime et spontané, selon moi. Et à ce sujet, est-ce que vous aviez déjà cette idée dès le départ de votre processus d'écriture ou au départ de cette histoire de réaliser ce récit sous la forme d'une sorte de journal intime ou est-ce que cela vous est venu par la suite ? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci à vous, Léa, pour cette question. Je trouve ça intéressant qu'elle parle de journal intime. Léa, c'est un terme qui ne me serait pas venu à l'esprit, mais que je trouve intéressant pour parler de l'écriture de ce texte. Séverine Chevalier, est-ce que c'est un mot qui vous parle ?
Eh ben oui, non. Merci, Léa, pour la question, tout d'abord. Non, c'est vrai que je n'ai pas pensé en termes de journal intime. Alors, peut-être parce que je n'en ai jamais écrit moi-même. Donc, voilà. Et puis aussi, parce que ce que j'ai plutôt pensé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Mathis, c'est-à-dire le présent de cette femme qui se met à écrire et qui écrit ce qui vient d'une certaine manière, quoi. Donc plutôt une écriture à la fois, qui est fragmentaire, enfin qui, mais qu'elle organise quand même. Il va y avoir une structure qui se met en place. Et en fait, je pense que, enfin, je sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais ça me fait penser à ça parce que j'y ai pensé après. Après avoir écrit le texte, je mettrais bien Mylène dans un peu la lignée, enfin, de personnages comme Bartleby le scribe ou récemment j'ai lu la végétarienne d'Ancan, qui sont des personnages qui à un moment donné arrêtent de faire quelque chose qu'ils faisaient, mais pas avec tambour et trompette, quoi. Et en fait, dans le cas de Bartleby, quand on lui demande de copier, parce qu'il est copiste dans une étude d'avoué. On lui demande de copier des textes, il répond juste « je préférerais ne pas ». Et la végétarienne, comme son nom l'indique, arrête de manger de la viande. Et ces deux façons de faire bouleversent l'ordre social. Et ce sont deux histoires qui finissent très mal pour les protagonistes, qui finissent tragiquement. Et pour Mylène, c'est un peu ce type de personnage. Simplement, et ça je le souhaitais vraiment... Elle finit bien, Mylène. Mais pourquoi elle finit bien ? Parce qu'elle s'écrit elle-même. Donc ça, par contre, je savais qu'elle voulait s'écrire elle-même et qu'elle ne serait pas écrite par d'autres, comme c'est le cas dans les deux textes là dont je vous parle. Et il me semble qu'il y a un lien entre le fait de, disons, avancer peu à peu, péniblement, dans le corps du texte. Plus le texte prend corps et plus elle s'incarne elle-même, plus elle prend chair ailleurs, quoi.
Ouais.
Et plus elle prend viande, quoi. Et plus elle s'incarne, en fait. Et elle se, peu à peu, elle commence à exister, quoi, à se tenir debout.
Et si Mylène est une héroïne un peu à la façon de Bartleby ou de l'héroïne du roman de Hong Kong, donc dans une forme de refus, si on devait essayer de dire ce refus, comment est-ce qu'on pourrait le formuler ? Qu'est-ce qu'elle refuse de faire, Mylène, ou qu'est-ce qu'elle arrête de faire ?
Je pense que le mot refus est peut-être un peu fort parce qu'en fait le refus ça sous-entend une décision, ça sous-entend quelque chose de frontal. Et effectivement, comme ces personnages-là, elle le fait par la bande. En fait, elle se met en retrait, elle fait sécession, et elle cesse d'être au service de quelqu'un d'autre, quoi. elle cesse d'être au service de Mallory, son mari. Et je crois que ça a quand même à voir avec la question aussi du désir. Et peut-être aussi avec la question du, justement, du réaccordage entre les mots et les choses, quoi. Puisque c'est, on peut penser que c'est aussi ça qui va la conduire à disparaître, le fait qu'un mot qui surgit tout à coup s'accorde avec ce qu'il représente. Ouais.
Il y a un auteur auquel on pense beaucoup, je trouve, en vous lisant, pas tout de suite, mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, il surgit, et en fait, réécoutant la lecture qu'a faite Léa Weiss-Grus de cette ouverture, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais bien sûr, la présence de cet auteur, elle est là, dans le texte, dans le texte que Léa a lu, on entend qu'il y a une lettre qui manque du clavier de Mylène, et c'est la lettre E. Je veux parler de Georges Perec, qui, comme on sait, a écrit un livre qui s'appelle La Disparition, livre qui était écrit sans recours une seule fois à la lettre E, et livre qui était aussi, on l'a compris ensuite, habité par la présence de la mère de l'auteur, hein, qui est morte assassinée à Auschwitz. Est-ce que Perec, c'est un auteur qui était présent à votre esprit, que vous avez lu, qui est sous l'égide duquel vous vous placiez en quelque sorte pour écrire ce livre, Séverine Chevalier?
Mais merci pour cette question, oui, parce que c'est une déclaration d'amour déguisée à Georges Perec. Parfois, dans l'émission, vous posez la question aux écrivains, aux écrivaines des livres qui ont changé leur vie. Mmh. Et puis, j'aime bien parce que souvent, vous insistez pour que ce soit un peu concret, la réponse. Et là, je peux dire que c'est très concret en ce qui me concerne. Parce que moi, je suis arrivée très tardivement à la lecture de Perec. Et en fait, vers 36, 37 ans, là j'en ai 51, j'ai lu W ou le souvenir d'enfance, qui est un texte absolument bouleversant de Georges Perec, où il essaye de... Enfin, c'est un texte qui comporte trois types de textes, mais une partie du texte vise à essayer de retrouver ses souvenirs d'enfance, sachant qu'il a une mémoire manquante, une mémoire fracassée par l'histoire de ses parents que vous avez rappelé, notamment de sa mère. Le livre commence par « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance ». Quand je lis le texte, je me dis « Mais bon sang, moi non plus, j'arrive pas vraiment à me rappeler de mon enfance, à en raconter l'histoire comme je vois faire les autres, mon compagnon, mes amis. » Et je décide alors de mener une enquête sur cette enfance disparue, enquête qui tout de suite... je liste des choses à faire, je me missionne presque en tant que détective, je me rends compte que ça ne mène strictement à rien. Et peu de temps après, je commence à écrire de la fiction. Donc en fait, je veux dire, c'est vraiment, je crois, ce livre qui m'a mené à l'écriture. Donc ça, c'est, je veux dire, l'effet est vraiment très très important pour moi. Et bon, par ailleurs, voilà, c'est... je veux dire, en fait, il y a deux auteurs dans le texte. C'est un peu sous l'égide de deux auteurs. Il y a Perec et puis alors il y a l'inverse. Et là, c'est plus qu'outrecuidant de parler de lui, mais c'est Proust. Bon, d'abord parce que je suis en train de le lire, mais je n'ai pas du tout fini, hein, depuis 2011 que ça dure.
Mais On prend le temps qu'il faut.
Voilà, et puis Proust, c'est l'inverse, c'est l'hyper-mémoire, c'est-à-dire il déplie, bon voilà, on parle de cathédrale, à partir de ses réminiscences, il arrive à recouvrer son enfance, tout un monde, tous les personnages. Et Mylène, elle est un peu entre les deux, quoi. Et aussi, j'aimais bien cette idée, c'est un ami qui m'a dit ça, Roland Barthes résumait Proust à la recherche du temps perdu en disant c'est Marcel qui devient écrivain. J'aime bien l'idée que mon petit texte de rien du tout, ça soit, on puisse le rêver, Mylène devient
écrivain.
C'est Mylène
qui devient écrivain. Moi, j'ai pensé à Perec aussi. On pense à Perec pour plein de raisons. Pour la question de la mémoire, pour la question de la présence de l'histoire, du passé des personnages que vous avez mentionnés tout à l'heure, mais aussi pour une manière d'écrire ce que Perec appelait l'infraordinaire. Ces petites choses. J'ai été rechercher la citation de ce texte qui est paru sous le titre L'infraordinaire au seuil à la librairie du 21e siècle. Perec dit « Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire ?» Et Mylène, on l'a entendu dans le texte d'ouverture qui se finit par cette très belle phrase « Comment sait-on qu'il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose et s'il se passe quelque chose, que se passe-t-il ? Moi, je trouve qu'il y a un écho très fort entre ces deux textes, que ce que fait Mylène, c'est aussi tenter de retranscrire cet infraordinaire.
Oui, tout à fait, elle est super, cette citation, vraiment, et on se rend compte, Perec l'a fait aussi en partant d'un lieu, essayer d'épuiser le réel, en fait, on se rend compte qu'on ne l'épuise pas, on aura beau tout décrire, Et d'ailleurs, si on le fait, enfin, d'une part, on n'y arrive pas, et si on le fait de manière très précise, ça fait un peu comme ces tableaux hyper réalistes, ça devient étrange, en fait. Bon, il est certain que le réel peut pas être appréhendé dans sa totalité, mais qu'on peut quand même essayer. Et c'est vrai que cette idée de garder trace, de traiter aussi peut-être à la fois l'extériorité et les pensées intérieures un peu de la même façon, d'essayer d'en saisir des choses sans que, bon, on y arrive, c'est peut-être aussi un des moteurs de l'écriture, quoi.
Je voudrais qu'on écoute un deuxième passage de votre roman Séverine Chevalier. Il va être lu par Léa Weiss-Creuz.
Mallory dit toujours, si on veut écrire, alors il faut n'écrire pour personne, même pas pour soi. Il faut écrire, car ce qu'on doit écrire doit être écrit, point. Il dit aussi, les gens qui étalent leur petite vie minable dans des bouquins, quel ennui. Personnellement, je n'ai jamais voulu écrire, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Il y avait la lecture, comme une forme mystérieuse de coécriture qui n'en a pas l'air. Il y avait l'admiration pour le labeur de Mallory, et certains passages de ses livres, bouleversants. Mais pour ma part, me convenait le langage purement administratif pratiqué dans mes différents emplois. Je balisais le monde plus ou moins ainsi, avec dessous le cours fugace et peu important de mes pensées. Je comptais sur les autres pour affiner mon regard. À force d'être assise dans le sous-sol, devant l'ordinateur me nourrissant de choses sucrées et grasses, ne nécessitant pas d'être cuite, baignant dans une sueur rance, à chercher à reconstituer avec des mots et des phrases ce qu'il me semble avoir été, à les déterrer, les lier, les préciser. Peut-être puis-je constater que, même sans l'avoir réellement décidé, même pour raconter ma navrante petite vie, j'écris. Je me demande, ce faisant, de plus en plus mue par un plaisir à nul autre égal, si, contrairement aux certitudes de Mallory, une écriture, quelle que soit la forme ou l'intention sous laquelle elle se présente, n'est pas toujours adressée. Même à quelqu'un d'imaginaire, même à quelqu'un de mort, même à quelqu'un qui ne vit pas encore. Quelqu'un qui pourrait comprendre mieux que soi l'énigme existentielle qui nous recouvre, qu'on donne à lire, en creux, fiction ou pas, sans même s'en rendre compte. Bien sûr, il s'agit là sans doute d'un espoir vain, impossible à combler.
Je me demande si une écriture n'est pas toujours adressée, dit Mylène dans ce texte. Or, il se trouve, Séverine Chevalier, que dans votre texte, soudain, surgit un événement, à un moment. Ce texte écrit en première personne s'adresse à quelqu'un, un mystérieux « tu ». Qui surgit dans une scène très mystérieuse, elle aussi, où à une sorte de dîner mondain, où elle et son mari Mallory sont conviés. Quelqu'un mentionne une histoire de lèvres qui s'embrassent, puis deux femmes s'embrassent, et puis la narratrice, Mylène, se retrouve à voir un tu faire le ménage, et soudain, elle s'adresse à ce tu. Et tout change d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce tu, il a surgi pour vous dans l'écriture et qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Oui, c'est vrai que, ben, en fait, je ne sais pas vraiment. Enfin, je crois qu'elle vous voit, mais ça revient au même.
Oui.
C'est aussi un tu, enfin, c'est une forme d'adresse. De
oui,
toute
oui,
façon,
je dis tu pour dire l'adresse. Oui,
ouais. Mais tout à fait. Bien, en fait, c'est arrivé un peu comme ça dans l'écriture, donc je l'ai pas du tout prémédité. Après, c'est toujours et je n'ai pas de comment dire, mon opinion fluctue là sur cette question de est-ce que le texte est
il y a pas de réponse arrêtée.
Oui, pas du tout. Même si par moment, je pense que même si, bien sûr, il s'agit pas d'écrire en pensant à faire plaisir à un lectorat ou tout ça. Bon, bien sûr que c'est pas ça, mais en même temps, je sais pas dans quelle mesure. Il n'y a pas quand même une sorte de lecteur idéal ou quelqu'un qui serait capable de, oui, d'entendre des choses qui ne sont pas dites. Parce que bon, il y a le texte et puis il y a ce qu'il y a autour du texte, sous le texte, ce dont on n'a pas conscience nécessairement quand on écrit. Mais après, ça, oui, je sais pas, j'ai l'impression que. Alors, ce qui m'intéressait dans ce personnage, bon, après, il faut dire, je me suis beaucoup amusée à écrire ce texte aussi. Et ce qui m'amusait aussi, c'était un peu le contrepoint, c'est-à-dire il y a d'un côté Mallory pour qui le statut de l'écrivain est important, et puis de l'autre cet homme dont elle se met à voir les lèvres soudainement, comme vous l'avez raconté. Alors ça se passe dans des toilettes, c'est aussi un lieu bizarre, enfin quelle idée de mettre des toilettes dans un roman pour une rencontre, une espèce de rencontre qui n'aurait pas vraiment une. C'est le serveur du restaurant, donc il y a aussi cette idée de rôle social qui est beaucoup plus faible. Enfin, il y avait une idée de contraste. Et on ne sait pas si elle va envoyer... Bon, elle écrit peut-être à cet homme, mais peut-être qu'elle ne lui écrit pas. Peut-être que ça lui sert... Peut-être que ça lui sert aussi pour constituer son texte, pour le structurer, le mettre en forme. Il y a peut-être que pour passer de l'état de brouillon à autre chose. Je sais que pour moi, par exemple, le fait de la publication, elle me sert d'abord à ça, à finir un texte, quoi. Je veux dire, à faire que même imparfait, même il y a plein de choses qui me vont pas, mais au moins quelque chose se clôt et je peux le laisser et puis penser à autre chose.
Il y a aussi un phénomène de quelque chose de l'ordre du miroir, il me semble, qui se joue dans la rencontre avec ce serveur. Cette personne, c'est vraiment une silhouette. On sait absolument rien de cette personne, si ce n'est en effet qu'il est serveur. Mais elle le voit faire le ménage. Et au début du livre, elle nous a raconté aussi comment elle, l'une de ses activités essentielles dans sa vie, hein, c'est de s'occuper de son logis, de repasser les chemises de son mari, comme j'ai dit pour commencer. Il y a aussi voilà, quelque chose du double qui se joue, il me semble, dans la rencontre entre ces deux personnages. Est-ce que ça vous paraît juste ?
Oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a quelque chose comme ça. Ça m'intéressait aussi, oui, qu'il y ait cette... qu'on puisse penser que cet homme, lui par contre, aime aider les autres, aime servir les autres, enfin, et qu'il y a quelque chose comme ça. En fait, c'était aussi, comment dire, on peut penser que c'est, comment dire, que cette femme est un peu à l'extrême dans cette idée de ne pas penser à elle-même et de s'occuper des autres, mais en même temps, je trouve qu'elle, mais il y a le miroir de ce serveur, mais il y a aussi ce qu'elle nous donne en miroir à nous, quoi. Voilà.
Et il y a du désir qui circule de bien des façons, de façon mystérieuse, mais tangible, et un corps qui est en jeu. Je voudrais qu'on écoute une archive de France Culture dans laquelle on entendait Amélie Nothomb. Elle était au micro de Marie Richeux. En 2019, on l'écoute.
Moi, l'écriture, c'est ce qui m'a permis d'avoir un corps. Vu qu'à l'adolescence, suite à toutes mes mésaventures, finalement, la seule solution que j'ai trouvée pour survivre, c'est que mon esprit est sorti de mon corps. J'ai passé des années pas dans mon corps. Et je peux vous assurer que c'était les années les pires de ma vie. De pas être dans mon corps, c'était affreux. Puis j'ai commencé à écrire. C'était très, très difficile à écrire alors que j'étais pas dans mon corps. Mais peu à peu, au fil des années d'écriture... peu à peu, je me suis rendu compte que je me réappropriais un corps. Et finalement, ça je m'en souviendrai toujours, j'avais 22 ans, je me suis rendu compte que j'étais à nouveau totalement dans mon corps. Je l'ai su parce que mon corps était de nouveau tout à fait chaud, ce qu'il n'avait pas été pendant des années. Et que j'avais réussi cette performance rien qu'en écrivant. J'habitais à nouveau totalement mon corps et c'est à ce moment-là que mon écriture est devenue quelque chose de beaucoup plus fort qu'elle n'avait jamais été auparavant.
Et c'est en écrivant qu'on apprend aussi à habiter son corps, comme le dit joliment Amélie Nothomb dans cette archive. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue aussi pour Mylène, la narratrice de votre roman Séverine Chevalier. Est-ce que cette chose-là, elle était importante pour vous ?
Ah ben, ça me touche beaucoup, là, cette archive d'Amélie Nothomb, vraiment... sauf que oui vraiment, enfin bon, c'est effectivement le cas de Mylène, et ce que je me disais en l'écoutant, c'est moi j'ai l'impression de pas encore en être au stade d'Amélie sur la question de l'écriture et de retrouver un corps. Moi j'ai l'impression, en fait, ça me fait penser à, c'est un texte de Duras que j'ai aimé adolescente qui s'appelle Moderato, non, c'est Les petits chevaux de Tarquinia. Dans Les petits chevaux de Tarquinia, il y a des gens qui boivent du Campari, il fait très chaud, il se passe rien, puis dans la montagne il y a un couple qui cherche les morceaux de corps de leur fils qui a explosé sur une mine. Ben, disons que moi, j'ai l'impression qu'écrire, c'est un peu chercher les morceaux de mon corps qui sont dispersés un peu partout. Là, je parle de moi, je parle pas de Mylène, quoi. Et donc, je sais pas si un jour, vraiment, je pourrais, par l'écriture, comment dire, me rassembler complètement. Mais en tout cas, c'est sans doute aussi un des moteurs très puissants pour moi de l'écriture.
Inscrit au cœur de ce texte, dans lequel il y a des éléments narratifs, hein, malgré tout, on les a pas beaucoup mentionnés, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées notamment à travers l'histoire de ses aïeuls, hein, que ce soit les parents de Mylène, les parents de son mari, leur destin sociologiquement assez précisément tracé aussi, pâtissier, qui ouvrier, descendant d'ouvrier de la soie à Lyon, toutes ces choses-là sont très précises. On sent quelque chose comme une envie aussi d'inscrire des vies minuscules au cœur du texte, quoi, de faire exister aussi oui, ces vies oubliées, ces vies effacées. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour finir de cette dimension-là?
Oui, ben alors après, ça rejoint un petit peu... Alors pour moi, effectivement, il n'y a pas de vie minuscule. Enfin, je comprends très bien l'idée. Puis il y a le texte de Pierre Michon. Enfin, bien sûr, mais en fait, toute vie, enfin, aucune vie n'insignifiante, toute vie... enfin, voilà, pour moi, c'est très clair. En plus, dès qu'on commence à s'intéresser à quelqu'un ou à quelque chose... ça devient extrêmement intéressant. Et puis, j'aime pas cette idée d'être en surplomb ou même de parler au nom d'eux, enfin, tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le texte aussi, c'est un peu écrit contre un certain nombre de récits que j'ai lus ces dernières années, qui pour certains sont réussis par ailleurs, mais où un écrivain ou une écrivaine s'empare d'une femme réelle qui a été victime, par exemple, ou qui a été socialement un peu écrasée pour la réhabiliter. Donc, c'est sans doute louable et plein de bonnes intentions, mais parfois, j'ai presque l'impression que ça redouble la violence initiale, quoi. Et pour moi, c'était important, justement, que Mylène, c'est une petite transfuge de classe, on va dire, hein. Elle a beaucoup lu grâce à la bibliothèque, elle a fait un peu d'études, elle est devenue fonctionnaire et elle se met à écrire elle-même, quoi. Elle n'est plus dite par d'autres. C'est important pour moi.
Ouais, c'est ce trajet-là qui compte. Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Mathilde Wagman.
Et à cette heure-ci, comme chaque mardi, l'heure est venue de vous retrouver, Nicole Bulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Mathilde.
Nicole, vous êtes journaliste au Monde et chaque mardi, vous nous donnez des nouvelles du livre sous le prisme économique. Aujourd'hui, puisque nous avons invité une autrice qui est aussi une autrice de polar, Séverine Chevalier, vous vous penchez sur la santé et les métamorphoses de ce secteur du polar et du roman noir. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, l'une des caractéristiques essentielles de ce marché reste l'importance des gros lecteurs. Une étude de Babelio le démontre clairement. Elle a été publiée début avril, juste avant l'événement phare du secteur, le festival Quai du Polar, qui vient de se tenir à Lyon. Un lectorat bibliophage, selon cette étude, puisque 23% des sondés assurent lire un polar par semaine et 12% se déclarent vraiment gloutons, en jurant en dévorer plus de deux par semaine. Alors c'est du déclaratif peut-être, ils peuvent enjoliver un tout petit peu. Mais c'est un public qui lit plus que la moyenne et surtout qui connaît parfaitement les sous-genres et les sous-catégories du polar. Ils sont très calés et savent absolument faire le distinguo parmi les 6578 nouveautés publiées en 2024 entre thriller psychologique, suspense, roman d'espionnage, polar à énigmes, polar historique, cozy mystery qui sont moins violents, mais aussi roman noir rural, gore fantastique. Je fais l'impasse sur le true crime, le techno-thriller, le thriller médical ou encore le thriller ethnographique. Et je ne les ai pas tous nommés. Une offre incroyablement variée et rangée sans doute à outrance dans des petites niches de marketing comme des dizaines de petites boîtes.
Mais comment se portent alors les ventes et comment s'organise le secteur ?
C'est un petit secteur qui se porte mieux que le marché de l'édition dans son ensemble, Mathilde. Selon l'Institut Nielsen IQGFK, le chiffre d'affaires du polar a augmenté de 3% l'an dernier pour atteindre 195 millions d'euros, ce qui représente près de 16 millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, le marché du polar est détenu à 90% par 5 grands groupes, Hachette Livre, Editis, Madrigal, Média Participation et Actes Sud. Mais une poignée d'indépendants arrivent tout de même à s'imposer. Gallmeister, par exemple, s'est fait un nom en publiant surtout de la littérature américaine avant de s'ouvrir à d'autres pays comme l'Italie. Autre indépendant, la manufacture de livres peut publier des auteurs qui viennent de la littérature blanche comme Fabien Tassel, se lancer dans la dystopie politique avec Jérôme Leroy, ou encore faire appel à un ancien de la DGSE qui publie sous le pseudo de Yann Zoletz, mais doit faire lire son manuscrit par les services secrets français pour éviter de livrer des dossiers ultra sensibles au public.
La manufacture de livres qui publie aussi le livre de notre invité du jour. Est-ce que le marché est dominé par les vendeurs de best-sellers, Nicole ?
La plupart du temps, Mathilde, le même schéma s'impose. Les maisons d'édition vivent grâce à un auteur phare comme Michel Bussy, Franck Tillier, Joël Dicker ou Fred Vargas, qui vend de façon astronomique et joue un rôle de locomotive. C'est le cas de James Ellroy, reçu au Book Club la semaine dernière, qui permet à sa maison d'édition française, Rivage Noir, de parier sur de jeunes auteurs. Rien que l'an dernier, il a vendu 86 000 exemplaires en France. Les stars aussi doivent débuter, et l'Écossais Peter May, lorsqu'il était inconnu et habitait les îles Hébrides battues par les vents, avait envoyé son manuscrit chez Rouergue Éditions, une autre filiale d'Actes Sud, en 2005. L'éditrice Nathalie Desmoulins, bluffée, avait immédiatement pris les droits mondes. Bien lui en a pris, cet auteur à succès aujourd'hui a sauvé la maison en 2010 et lui permet de prendre des risques sur de jeunes auteurs, quitte à en publier à perte, puisque ce type d'investissement, rappelle l'éditrice, est certes financier, mais aussi affectif et littéraire. Dans ce paysage, Stéphanie Delestré, directrice de la collection Série Noire chez Gallimard, constate un écart qui se creuse entre les gros et les petits, les auteurs qui vendent plus de 30 000 exemplaires et ceux qui vendent entre 2 000 et 5 000 unités, avec une absence d'auteur au milieu.
Alors, est-ce que la bataille, plus qu'ailleurs, se joue aussi dans les ventes des poches ?
Oui, Mathilde. Dans l'étude Babelio, les amateurs de polar privilégient absolument le livre de poche. Ils sont 63% à déclarer lire majoritairement, dans ce petit format. Et d'ailleurs, les éditeurs le savent bien. Et bon nombre d'entre eux publient eux-mêmes des poches ou des semi-formats. Nouveau Monde Édition, par exemple, démarre une collection de polars directement en poche, sans passer par la case grand format. Rouergue Édition va relancer en septembre sa propre marque de poche. Les exemples sont Légion. Les rééditions aussi se multiplient. Chez Gallimard, la collection Série Noire pour ses 80 ans a ainsi sorti, dans une nouvelle traduction, deux grands classiques de Raymond Chandler, La Dame du Lac qui est devenue La Dame dans le Lac, et Le Grand Sommeil, ou encore Tiré sur le pianiste de David Goudis. Chez Lattès, Le Masque, la maison d'Agatha Christie et de Charles Exbraya, qui, elle, fêtera ses 100 ans en 2027, a ressorti dans son emblématique collection jaune et noir des grands standards comme Le Chien des Baskerville ou L'Assassin habite au 21. Alors, est-ce que le polar est promis à un bel avenir ? Yannick Dehé, qui dirige Nouveau Monde Éditions, est formel. Il m'a dit tout récemment, le polar est bien adapté à un monde sans pitié. Difficile d'envisager mieux aujourd'hui.
Un très grand merci, Nicole Vulser. Votre chronique à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Comme chaque jour à cette heure, en fin d'émission, nous jouons à trouver de la musique dans un livre. Si vous voyez dans vos lectures un passage qui cite un morceau de musique, envoyez-le nous via le compte Instagram en prenant une petite photo via le compte Instagram ou au mail lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, on a trouvé de la musique dans votre livre, Séverine Chevalier. Une chanson revient en particulier à deux moments, comme dans ce passage. Je me suis aperçue que je ne m'étais jamais interrogée plus profondément sur elle, bien qu'elle fût ma mère. Elle n'avait été qu'une fonction aigre et pénible dont il avait fallu plus ou moins se protéger, et non un véritable être humain avec ses creux, des bosses, des trous et des substances. Et il me sembla soudain urgent, marchant dans cet endroit qui ne ressemble à rien, de lui demander de me parler plus avant d'elle, de sa vie, de son enfance, de ses parents, des aïeules ouvrières dans la soie. Le lendemain, elle était morte. Il paraît que ça arrive parfois, un apaisement brutal comme une préparation, puis la mort. Marie de l'EHPAD m'a dit l'avoir trouvée presque souriante, bien bordée et défunte dans son lit. Je lui ai dit « Vous pouvez prendre les fleurs si vous voulez, elles datent seulement d'hier ». Après avoir raccroché, j'ai écouté en boucle, en m'enivrant, la chanson qu'elle aimait tant.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. dira.
Un très grand merci Séverine Chevalier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Théorie de la disparition, c'est le titre de votre roman. Il a paru aux éditions La Manufacture de Livres. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vivien Demeyer, au son Élise Leu. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et aujourd'hui tout particulièrement à Léa Weissgruss.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre, d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.